France Culture.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
C'est une émission aujourd'hui sur ce qui nous importe le plus au fond, ce qui nous lie, vous et moi, et bien d'autres. La parole. Bien sûr, il y a la voix, le timbre, la tessiture, la sonorité, le grain, là où nous plaçons nos respirations, la vitesse, le débit, rapide ou lent, qui en disent souvent beaucoup. Et puis, inséparable, il y a ce qu'on veut dire, la grammaire pour le faire, la logique, les mots choisis, les émotions qui passent. La parole, c'est tout ça à la fois, c'est le message et la façon dont il est articulé, le fond et la forme, évidemment. Alors quand la parole est abîmée, quand la fonction hésite ou bégaye, trébuche ou soubresaute, quand la parole est empêchée, faut-il lutter pour se corriger? Faut-il cesser de parler complètement pour cacher son bégaiement? Faut-il se faire violence, se donner des coups pour faire sortir les mots? Faut-il laisser les autres finir vos phrases, trouver les mots à votre place, ou bien accepter, accueillir la différence, l'adopter et en faire son allié? Tout de suite dans Les Pieds sur Terre, voici le parcours chaotique de Sundus avec la parole et sa fin joyeuse par Alain Lefkovitch.
Je m'appelle Sundus, j'ai 17 ans, je suis en terminale et je suis bègue, donc c'est mon handicap depuis mes 8 ans. Je suis née en France, mais quand j'étais petite, je vivais en Tunisie, jusqu'à mes 9 ans. Et j'ai commencé mes études là-bas. Et là-bas, j'étais dans une école privée extrêmement stricte et dure. Et dès la maternelle, les devoirs devaient être excellents. À moins de 15, ce n'était pas une bonne note, c'était même horrible. Et en fait, je n'y arrivais pas du tout. C'était beaucoup trop dur et pas du tout aménagé. Enfin, j'avais plusieurs troubles de lecture, de compréhension, qui compliquent énormément les choses pour moi. Et là-bas, les troubles dyslexiques et même tout autre trouble ne sont absolument pas reconnus. À partir du moment où on a une mauvaise note ou où on n'arrive pas, c'est qu'on est bête. Et à ce moment-là, aucun prof n'en a parlé ou n'a tiré la sonnette d'alarme. Et en Tunisie, les châtiments corporels sont acceptés. Bon, c'est pas non plus extrêmement violent. On parle de tapes sur les mains ou de choses comme ça. Et ça, par exemple, ça fait peur. Ma mère m'a dit qu'avant les contrôles, je vomissais, alors que je n'avais que 7 ans. Et voilà. Et donc, après, là-bas aussi, il y a la culture de l'humiliation pour avancer. C'est normal que le professeur dise votre note à voix haute si vous avez eu une mauvaise note. Donc, cette pression de tout le temps être fort, de tout le temps avoir la bonne note, était extrêmement dur en termes de stress. Et un jour, mon père est parti pour me réinscrire, sauf que l'école ne voulait pas de moi, parce qu'elle voulait que des personnes excellentes pour garder un taux excellent. Et donc, la directrice fait tout un monologue sur le fait que j'étais pas assez bonne à l'école. Alors, mon père s'est senti humilié et donc il s'est énervé. Et de là, s'en est suivi beaucoup de reproches, que ce soit à l'école ou de mon père, etc. Et ça m'a beaucoup affectée. Il s'est passé aussi d'autres choses à ce moment-là. La mort de ma grand-mère, etc. Qui ont fait que, pour moi, à ce moment-là, c'était très dur. Et on pense que c'est ça qui a déclenché le bégaiement. Avec ma mère, on n'en a jamais spécialement parlé parce que c'est venu vraiment petit à petit. Il y avait des jours où je bégayais, des jours où je bégayais pas. Du coup, la conversation n'est jamais réellement venue. Je me rappelle qu'un jour, je me suis un peu inquiétée et j'en ai parlé à ma mère. Et ma mère m'a dit oui, bah, ça va passer. Et la semaine d'après, je bégayais plus. Du coup, moi, je m'inquiétais plus de la chose. Alors plus tard, en France, au collège, je n'ai jamais été réellement harcelée, j'ai eu quelques remarques. C'est une amie qui avait dit « oui, tu prends du temps à parler ». C'était pas méchant, et moi, bah, je pensais juste que je parlais lentement, c'est tout. Ça ne m'est pas venu à l'idée que je bégayais, en fait, à ce moment-là. jusqu'à un rendez-vous avec une orthophoniste pour mes troubles 10. Je suis dyslexique, dysorthographique et un autre trouble 10 que j'oublie tout le temps. Et à la fin, elle demande si je veux un suivi pour le bégaiement. Au début, j'ai pas compris. Le bégaiement ? Comment ça, le bégaiement ? Et je comprenais pas le rapport avec moi, en fait. Ma mère, elle dit non, du coup, parce qu'on n'a jamais demandé de suivi pour le bégaiement. On sort, on prend la voiture, etc. Et on s'arrête à une boulangerie. Je descends pour aller commander. Et là, je bégaye. Et c'est la première fois que je l'entendais. Et d'un coup, je me suis arrêtée en mode « Hein ? Qu'est-ce qui s'est passé ?» C'est là que je me suis dit « Je bégaye. » Et c'est là que j'ai pris conscience de tout ce qui se passait dans ma gorge, de toutes les contractions de ma gorge que je ne contrôle pas. Et des contractions de la langue aussi, que je ne contrôle pas des fois. De cette légère douleur qui arrivait des fois, du fait que des fois, j'arrive plus à respirer. La plupart du temps, quand je parle, je suis en apnée parce que je ne sais pas à quel moment est-ce que je vais pouvoir respirer. Il y a des fois où ça s'arrête et je ne peux plus respirer. Et c'est les moments les plus horribles. Et donc, j'ai eu ce rendez-vous à mes 13 ans, je crois. Et jusqu'à mes 13 ans, j'en ai jamais réellement eu conscience. J'ai pris conscience de tout ça en un laps de temps très réduit, sans préambule, sans rien du tout. Et ça a été trop brutal. Et c'est là que j'ai commencé à le voir comme un problème. Et donc, j'ai vraiment commencé à l'entendre. J'entendais que ça tout le temps. Il était assourdissant. Ça me dérangeait tellement que j'ai arrêté de parler parce que je voulais plus l'entendre. Je pensais trop que les personnes allaient être énormément choquées, qu'ils allaient se moquer, alors que ça n'a jamais réellement été le cas. C'est juste moi qui ne supportais pas ma parole comme ça. En fait, j'associais ma parole à quelque chose de bête, de demeurer, alors que ce n'est absolument pas le cas. Et donc, je me censurais moi-même sur ma parole. Ça veut dire que je voulais plus parler, et pour que les gens arrêtent de me parler, je suis devenue méchante. Dès que je bégayais, j'étais méchante envers les gens autour de moi, parce que j'ai bégayé. Et donc, je supportais même pas leur présence. Alors que c'est ma famille, ou c'est mes amis. Et donc, j'étais froide. Je répondais sèchement. Là, j'ai déjà eu des camarades qui m'ont posé une question sur le cours quand ils étaient assez à côté de moi et je faisais semblant de ne pas les entendre. Je me rappelle que une fois, il y a une personne, elle m'a arrêtée pour demander son chemin et j'ai dit non, mais en fait, j'ai pas le temps pour vous et je suis repartie rapidement. Je connaissais son chemin et je voulais l'aider, mais je n'y arrivais pas. Pas parler, pour moi, ça se traduisait par le fait d'utiliser le moins de mots possible. J'optimisais mes phrases le plus possible pour utiliser le moins de mots. Je me rappelle, et ça c'était un conseil de ma psychologue, c'était de noter les mots qui me faisaient bégayer beaucoup. Juste pour me rendre compte de quelles syllabes, et donc de travailler dessus avec mon orthophoniste. Sauf que moi j'ai un peu perverti le truc, en mode, ces mots-là je ne les utiliserai plus jamais. Je sais que je bégaye sur certaines lettres, comme le E. J'ai beaucoup de mal à commencer une phrase ou un mot si ça commence par A. Je n'utilisais presque plus le mot avec, par exemple. Tous les mots trop compliqués, je les enlevais et je trouvais des synonymes comme le mot avec. J'ai fait une liste de synonymes comme par ou en association. Ça veut dire qu'au lieu de dire... je vais prendre un café avec du sucre, je disais. Je vais prendre du café dilué de 2 cachets de sucre, par exemple. C'est des phrases qui n'avaient pas beaucoup de sens, mais je faisais tout pour ne pas utiliser les mots. C'est à ce moment-là que j'ai commencé, en fait, à apprendre des mots un peu plus complexes qui englobent plus de choses que nos mots à nous, comme, par exemple, compendieusement. Ça choquait, mais le C, ça me faisait beaucoup moins bégayer. Et ça avait l'air d'un langage extrêmement soutenu, surtout quand on est en 6e, 5e. Par exemple, aussi, au lieu de dire quelque chose de rapide ou de court, je disais succinct, parce que le saint, ça bloquait le bégaiement. Quand j'étais en collège, je parlais pas du tout en cours. Je parlais au professeur qu'à la fin du cours. Et certains professeurs m'entendaient parler que quand il y avait des rendez-vous parents-prof pour rendre le bulletin ou des choses comme ça à la fin de l'année, parce que ma mère était là. Et qu'à partir du moment où ma mère était là, je me sentais en confiance. Et c'était compliqué pour moi parce que à presque tous mes bulletins, j'avais la réflexion que je ne participais presque pas. Donc avec mon orthophoniste, on avait fait une démarche pour que dans mes aménagements liés aux dyslexies, il y ait aussi que on ne prenne pas en compte si je ne parle pas. Donc, ne pas parler, c'était ne pas dire des choses superflues. Je me rappelle que si j'avais quoi que ce soit à demander, tant pis, je trouvais d'autres solutions. À la cantine, on devait demander du sel, je ramenais mon propre sel. Donc, le moins parler, c'était vraiment utiliser le moins de mots possible et faire en sorte qu'il y ait le moins de témoins possible à ma parole. Je voulais pas qu'on le sache. Je parle que avec ma mère, mon père, ma famille maternelle et mes amis. C'est tout. Parce qu'avec eux, je bégaye extrêmement peu. Je me relâche complètement. Sinon, tout le reste, j'ai mis plein de stratégies en place pour ne pas avoir à parler aux commerçants. J'allais que dans les restaurants où il y avait les bornes pour commander. Je prenais tout le temps la carte de ma mère pour pas avoir à les payer en espèces et donc pas parler à la personne. Quand je partais seule au champ ou quoi, je partais dans les caisses automatiques. Donc toutes les petites épiceries, tout ça, je n'y allais jamais parce qu'il fallait parler. Quand je rentrais dans un magasin et qu'un commerçant me demandait si j'avais besoin de quoi que ce soit, ce qui est normal, je partais parce que ça me mettait en angoisse. Donc j'ai mis plein de stratégies en place. À ce moment-là, j'avais 13-14 ans. Et j'étais très très isolée, je ne sortais pas, je parlais avec quelques personnes. J'ai eu beaucoup de chance parce que j'avais de très bons amis, mais j'avais beaucoup de mal à intégrer une nouvelle personne dans le groupe. Dès qu'il y avait une nouvelle personne, je devenais absolument muette. Dès qu'elle me demandait mon prénom ou quoi, je regardais mes amis pour qu'ils répondent à ma place. La plupart du temps, je demandais à mes amis qu'ils lui parlent de mon bégaiement. Parce qu'à ce moment-là, le plus dur, c'est la première réaction. Un bégaiement. La plupart des gens froncent les sourcils. Ce que je comprends et ce que je ne leur reproche pas. Mais moi, c'était difficile à vivre parce que je parlais et d'un coup, on pointait le doigt sur le fait « Ah, mais c'est bizarre !» Et donc, c'est ça qui était le plus dur. Donc, je faisais tout pour que si je devais absolument parler avec une personne nouvelle, qu'elle sache mon bégaiement avant. Et donc, avec les amis, tout allait bien. C'est juste que je n'allais pas au-delà des quatre personnes avec qui j'étais amie. Et j'allais pas vers d'autres personnes. C'était que cela. À ce moment-là, il y avait des problèmes entre ma mère et mon père. Il y avait aussi le confinement, le Covid, tout ça. Ce qui fait que je n'ai pas vu ma famille paternelle en Tunisie depuis 3 ans. Et donc, j'y vais avec mon père. C'était durant la période de divorce de mes parents. Donc, on repart dans la maison où j'avais grandi, dans mon ancienne chambre. Du coup, il y avait encore les manuels que j'avais enfant. Je me vois quand j'étais petite, le tableau avec lequel je travaillais, les manuels, des choses négatives. Et j'avais pas vu la famille paternelle depuis longtemps. Et il m'était insupportable de savoir qu'ils allaient savoir que je bégayais. Je voulais pas qu'ils m'entendent bégayer. Et il y a eu une réunion de famille. Et donc, je parlais le moins possible. Et j'ai une cousine que j'avais pas vue depuis longtemps et avec qui j'étais assez proche, qui naturellement me pose des questions sur mes cours, etc. Et que je répondais juste « je sais pas, peut-être » ou des trucs comme ça, en arabe du coup. Sachant qu'en arabe, je bégaye plus qu'en français. je l'utilise moins que le français, donc je la maîtrise un peu moins, donc je suis plus en insécurité et je bégaye plus. Et j'ai et juste pris mon livre pour lire, ce qui ne se fait pas quand on est dans un repas de famille. Et du coup, bah, elle me demande qu'est-ce que je lis comme livre et je lui dis laisse-moi lire, là j'ai pas le temps. Et je continue de lire. Moi, je voulais juste qu'elle arrête, qu'elle se taise, qu'elle me laisse être simplement présente, qu'elle ne me demande pas de parler. Et donc, j'ai été froide. Et donc, j'ai vu qu'elle ne comprenait pas, en fait. Et moi, je l'aimais bien, cette cousine. Et ça m'a fait du mal. Et juste après le repas de famille, je rentre à la maison et tout, avec mon père. Il part dormir et moi, je reste dans le salon. Et je m'en voulais de mon comportement avec ma cousine. Et je me suis dit, mais le bégaiement, il m'a changé. Je ne suis plus la personne que j'étais avant. Je ne me reconnaissais plus et j'arrivais plus à savoir qu'est-ce que je faisais bien et qu'est-ce que je faisais de mal. Enfin, j'avais plus aucun contrôle sur quoi que ce soit. J'ai juste pété les plombs. Il faut savoir que à ce moment-là, je pensais être la seule bègue au monde. Je ne savais pas qu'il y avait d'autres personnes comme moi. Je n'ai jamais fait de recherche sur ça. Le but, c'était de moins parler possible et donc de l'effacer. Donc, je n'allais pas faire de recherche dessus. Et une autre chose compliquée, c'est qu'en troisième, on nous demandait de choisir si on voulait partir en général, etc. Et moi, mes recherches d'études potentielles ne reposaient que sur un seul critère, le moins parler possible. Donc je partais plus sur l'informatique ou des choses comme ça. Et même, je ne me voyais pas travailler. Je ne voyais pas d'avenir avec le bégaiement. Je ne me voyais pas me marier, je ne me voyais pas avoir d'enfants. Je ne voyais rien du tout, en fait. Je voyais juste ce que je vivais là et je ne voyais pas de suite. Parce que je pensais que j'étais la seule, que c'était un handicap que je vivais et c'était comme ça. C'est faut t'as pas de chance et voilà. Et je me rappelle que j'ai presque pas dormi cette nuit-là. J'ai pris mon téléphone, j'ai fait une recherche sur le bégaiement et je me suis dit, pourquoi pas aller chez une orthophoniste, une psy, je sais pas, n'importe quoi. J'ai pris le premier truc qui arrivait, j'avais juste vu blablabla, bégaiement. Et c'est que le mot bégaiement qui m'avait intéressé. Je l'ai envoyé à ma mère. J'ai juste dit à ma mère, inscris-moi s'il te plaît. Et c'est tout. Et elle m'a inscrit. À ce moment-là, je ne savais toujours pas qu'est-ce que c'était. Je savais juste que ça parlait de bégaiement et c'est tout. Et quand on rentre en France, c'est là qu'on découvre que j'étais la plus jeune personne dans ce programme. Parce qu'en fait, ils ont appelé ma mère. Et après, ma mère, du coup, elle me raconte l'appel et me dit « Oui, il bégaye aussi. » Je lui dis « Attends, quoi ?» Elle me dit « Oui, il le bégaye aussi. » Et j'étais là. « Ah, donc là, je vais rencontrer des personnes comme moi ?» Et le programme, il commençait le 5 octobre. Je m'en souviens très bien. Ce jour-là, donc j'avais 15 ans, je venais de rentrer en seconde. Ma mère ne pouvait pas m'accompagner. Donc c'était la première fois que je prenais le train seule et j'étais très stressée. Et quand je suis arrivée, en fait, j'ai eu mon comportement de d'habitude. Je suis juste partie m'asseoir, j'ai pris mon téléphone, j'ai mis mes écouteurs et je me suis mise dans une bulle. Et là, il y a deux adultes qui viennent me rencontrer. Et c'est la première fois que j'entends un bégayer aussi. Et en fait, la première chose que je me dis, c'est « ça fait pas autant de bruit que dans ma tête ». Dans ma tête, c'était quelque chose d'assourdissant, c'était horrible, c'était bête, c'était ridicule. Mais quand je l'ai vu chez quelqu'un d'autre, j'étais là « en fait, c'est pas si horrible que ça, c'est pas si flagrant que ça, c'est pas si ridicule que ça ». Et il m'a vraiment fallu 20 minutes pour que toutes mes barrières partent. Et que je parle avec tout le monde, que tous mes mécanismes de protection partent, que je me sens libre. Je partais de groupe en groupe, ce qui n'était jamais arrivé de ma vie. C'était un truc de ouf pour moi. C'est l'endroit où j'ai le plus sociabilisé de ma vie. Et qu'est-ce que c'était bon. C'était incroyable de parler à d'autres personnes et voir des adultes qui travaillent, qui ont fait des études, qui ont des enfants. C'est quoi cette histoire? C'était un truc de dingue, je sais jamais. En fait, j'ai un avenir dans ce monde. Je vais pouvoir travailler, je vais pouvoir vivre. Et donc, ça m'a complètement libérée de beaucoup de choses. entre 9h et 9h30, c'était le petit déjeuner, entre guillemets. On discutait tous, on se découvrait. Et donc, à 9h30, il nous demande de nous asseoir et une personne part devant nous. Et c'est là qu'elle nous explique que c'est un programme d'éloquence pour personnes bègues. Que ce programme s'appelle Éloquence du bégaiement et que c'est un concours d'éloquence. C'est une association qui a pour but de montrer que l'éloquence est possible même pour les personnes qui ont des handicaps, oraux ou pas. Du coup, ce samedi-là, on avait des cours d'éloquence et l'aide a été phénoménale. Que ce soit dans les outils d'éloquence qui sont incroyables, qui m'ont aidé à me libérer, à enlever tous ces mécanismes de protection, toutes ces listes de mots, ces mots que je faisais tout pour ne pas prononcer. Ils nous ont appris donc à faire des pauses. Et en fait, durant longtemps, pour le bégaiement, l'optique des orthophonistes, ça a été d'enlever le bégaiement. Sauf qu'on s'est rendu compte que il ne peut pas tout le temps être enlevé et que ça ne dépend pas spécialement de nous parce qu'il n'y a pas assez de recherches qui ont été faites et on ne comprend pas la chose. Donc, cette association a comme optique de ne plus me battre contre le bégaiement, de l'accepter et juste de vivre avec. Alors, j'ai participé 2 fois à ce concours. On présente un minimum 2 discours. Un sujet libre, on le choisit. Les seules contraintes, c'est que le discours doit durer 6 minutes hors bégaiement. Donc, j'ai eu un sujet libre qui était « Les pensées nous définissent-ils plus que nos actes ?» Et donc, je défendais le fait que nos pensées nous définissent plus que nos actes. Par la suite, c'est la demi-finale et on a un sujet imposé avec une position imposée. C'était « Gardons-nous toujours notre âme d'enfant ?» Et je devais répondre au non. Je ne suis pas allée en finale, je n'ai pas été sélectionnée. Mais j'ai quand même eu un discours de 3 minutes devant 700 personnes à ce moment-là. L'année d'après, j'ai reparticipé au concours parce qu'on peut participer jusqu'à 2 fois. Et là, j'ai pu aller en finale. Je défendais le fait qu'il fallait écouter sa raison et pas son cœur. Et j'ai eu le prix de l'authenticité. De là, j'ai été sélectionnée pour la finale nationale, entre guillemets, du concours. Et en fait, là, je me suis retrouvée à Tous Éloquents. Tous Éloquents, ça a été créé pour tous les handicaps. Donc, c'est le plus haut concours qu'ils aient. Il y avait une personne sourde, une personne avec une déficience visuelle, une personne autiste. Il y avait plein d'handicaps. Et donc, là, j'ai fait un discours pour 6 minutes. Au théâtre de Mogador, devant 1200 personnes. Mon sujet, c'était « La confiance en soi est-elle un privilège ?» Et à Mogador, j'ai eu le prix de l'engagement.
Merci à tous ceux qui ont rendu possible ce concours. Car je vous le dis, non, je vous le proclame, vous avez changé ma vie. Votre travail et votre courage sera toujours, toujours, toujours admiré et ne sera jamais, oh là, jamais oublié.
J'ai aussi fait donc un discours au Conseil d'État. C'était juste après la finale de Éloquence du bégaiement. C'est une personne du jury qui faisait partie d'un programme pour que des personnes en situation de handicap fassent des petits discours de 3 à 5 minutes. Donc, ils me l'ont dit vendredi soir pour mercredi. J'ai fait mon discours lié au bégaiement dans le train. Ensuite, 7 à 8 s'est intéressé. J'ai été le sujet avec 2 autres personnes en reportage. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Voilà, c'est déjà bien. Ça m'a donné beaucoup d'opportunités. Aussi, voir que j'ai un avenir. Et donc maintenant, je suis dans un moment où je vais devoir remplir Parcoursup et mes études. Et je penserai aller sur de l'orthophonie, sur de la philosophie ou de la psychologie. Mon but, ça serait d'aider ceux qui sont ou qui seront dans ma situation. Pas spécialement que dans le bégaiement, dans plein de choses. Et le concours m'a mis en contact avec plusieurs orthophonistes qui m'ont aidé donc à savoir si l'orthophonie serait faite pour moi, etc. Je pense que oui. On verra si les écoles m'acceptent. Ça serait drôle, une orthophoniste bègue, mais il en existe plusieurs, et même plusieurs orthophonistes qui ont les troubles qu'elles traitent, que ce soit sourdité ou dyslexie, etc. Et justement, c'est parce que comme on vit les choses, on est peut-être plus apte à aider ces personnes-là parce qu'on les comprend plus. C'est vrai que malgré toute la bonne volonté, il y a certaines choses qu'on ne peut pas comprendre. Et en vivant la chose, c'est peut-être plus simple. Toutes ces opportunités ont fait que j'ai été obligée de sortir de mon cocon. Aujourd'hui, je sors énormément grâce à tout ça. Maintenant, j'ai une vie sociale extrêmement remplie, même un peu trop des fois. J'ai besoin de dormir, mais je suis devenue la personne qui peut aller demander aux commerçants tout ça, parce que je me suis fait extrêmement violence, et j'en suis fière. Aujourd'hui, moi, je ne veux pas spécialement vaincre le bégaiement. Je m'en fous. Peut-être même au contraire. C'est devenu une partie de moi que j'accepte et qui m'a forgée. Sans lui, je ne serais pas celle que je suis. Sans lui, je n'aurais pas vécu plein de choses, que ce soit positif ou négatif. Et donc, maintenant, c'est beaucoup plus simple. C'est même naturel. Ça ne me pose plus problème de parler parce que je ne me bats plus contre le bégaiement. C'est plus un problème, c'est plus un ennemi. C'est juste une parole différente et c'est tout. Je l'accepte. Ma gorge, quand elle se contracte, me fait toujours mal, mais beaucoup moins que si je me battais. Donc, je laisse le bégaiement vivre, et il me laisse vivre aussi, et on vit en cohabitation. C'est comme un petit personnage, c'est comme quelque chose qui vient, qui part, on sait pas trop, c'est comme il veut, et c'est pas une fatalité. See my pretty face in his old eyes. I listen to our blood run side by side. C'était La Parole retrouvée, un reportage d'Alain Lefkovitch réalisé par Emmanuel Jouffroy. Merci bien sûr à Sundus. L'attaché de production des Pieds sur Terre, c'est Valentin Rémy. Et notre stagiaire, c'est Mina Morel. Want to take me, but I will hide from them. Tonight I'll take your life and throw it far away. I'll use my pretty face to find my way to him. I see my pretty face in his own. Listen to our blood run side by side. I throw my hands to you and run away. It's so cold, so dangerous.